Face à l'info sur la première.
La première, face à l'info.
Et un face à l'info consacré donc aux suites de cet accident hier soir à Sierre en Suisse. On rappelle le bilan, hein, 28 morts et en particulier des enfants, Elie Kagelbergs. Retour sur ce terrible drame en compagnie de vos invités.
Avec un seul mot-clé, bien entendu, la dignité dans le deuil. Nous allons le faire avec en tête de cette émission Laurette Onkelinx, vice-première ministre, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, qui était également bien sûr en première ligne sur ce dossier, mais aussi ensuite avec Patrick Lagadec, le directeur de recherche à l'École Polytechnique de Paris, spécialiste en gestion de crise. Nous entendrons d'autres intervenants que j'aurai l'occasion de vous présenter successivement. Merci d'être face à l'info, jour de deuil, avec bientôt un jour de deuil national qui a été décrété par le gouvernement. En tête de cette émission, en direct avec nous, Laurette Onkelinx. Laurette Onkelinx, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, évidemment, des mots de condoléances répétés, évidemment, depuis hier soir, ce matin, toute la journée, aux familles, aux proches, aux victimes.
Oui, je pense que c'est vraiment l'ensemble de la Belgique qui est tout à fait bouleversée par ce qui s'est passé. On se sent en communion avec les familles devant l'horreur. Je pense que c'est vraiment la Belgique qui a perdu des enfants. C'est un drame comme jamais on en a eu. Donc oui, c'est vraiment un tout tout grand moment d'émotion.
Alors, je l'ai dit, un jour de deuil national décrété, les modalités doivent encore être définies. Le deuil national parce que, précisément, de jeunes vies ont été fauchées.
C'est exactement cela. C'est vraiment cette volonté que tous ensemble, quelle que soit notre langue, l'endroit où nous habitons, que tous ensemble en Belgique, nous nous sentions unis autour des familles face à ce drame atroce.
Alors, un dispositif a été mis en place, Laurette Onkelinx, ce dispositif gestion de crise. Quel est le dispositif à l'heure actuelle ?
Oui, dès qu'un accident de ce type intervient, l'administration de la santé, si vous voulez, active un centre de crise qui développe un plan d'intervention psychosociale. Et donc, dès que nous avons été avertis à 6 heures du matin, le centre de crise s'est mis en route. Immédiatement, des équipes sont parties dans les 4 communes concernées par le drame avec un médecin, inspecteur d'hygiène et un manager, coordinateur psychosocial pour soutenir tous les dispositifs locaux de soutien aux familles. Nous avons aussi travaillé avec la Croix-Rouge qui a mis à disposition toute une série de secouristes psychosociaux avec des psychologues, là aussi en soutien aux familles.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que toutes les victimes ont été identifiées et que toutes les familles ont été prévenues ?
Non, pas encore. Il reste 2 enfants dans le coma qui n'ont pas encore été identifiés. Et 7 personnes décédées qui n'ont pas encore été identifiées à l'heure où je vous parle.
Mmh. Il y a également, on le sait, des victimes probables de nationalité néerlandaise, voire allemande. Plus de précisions à cet égard ?
Oui, il y a 10 enfants de nationalité néerlandaise, un enfant de nationalité polonaise et un enfant allemand avec la double nationalité.
Alors, Laurette Onkelinx, un dernier mot. On sait que Elio Di Rupo, Steven Van Acker, d'autres sont rendus sur place. On va entendre d'ailleurs un extrait de la conférence de presse. Qu'est-ce que l'on peut imaginer faire dans l'immédiat pour comprendre ce qui s'est passé ?
Mais d'abord, l'urgence, pour moi, bien sûr qu'il faut comprendre, évidemment. Mais l'urgence, c'est d'abord l'identification de l'ensemble des victimes et puis c'est travailler avec les familles pour les rapatriements. Que ce soit le rapatriement des corps, mais le rapatriement aussi des enfants qui sont blessés, voir les conditions de ce rapatriement, négocier avec les autorités médicales et aussi avec les familles pour voir le moment le plus adéquat de rapatrier. Je voudrais souligner le travail extraordinaire réalisé en Suisse. Les autorités suisses ont fait un travail tout à fait remarquable. Nous avons été sans cesse en lien avec la coordination médicale sur place. Et je sais que pour le moment, le parquet là-bas, à côté du dispositif médical, travaille sans relâche pour avoir une explication du pourquoi de cet atroce accident.
Je vous remercie, Loretta Kellings, d'avoir été avec nous en direct alors qu'une réunion, bien sûr, de crise se tient encore. Merci d'avoir été en direct avec nous pour nous donner ces explications et pour témoigner de l'ampleur nationale de ce deuil qui a frappé hier soir vers 21h15 un autocar ramenant des enfants belges et leurs accompagnateurs, des enfants néerlandais, allemands, polonais également, vers notre sol. On écoute immédiatement, si vous le voulez bien, un extrait de la conférence de presse qui s'est déroulée il y a quelques instants en Suisse. Y ont pris successivement la parole la présidente de la Confédération helvétique, Evelyne Wilmer-Schlumpf, et ensuite Elio Di Rupo.
C'est avec une grande consternation et une profonde émotion que j'ai eu connaissance hier soir de ce tragique accident de car survenu dans le canton du Valais. Lors de ces moments très difficiles, ma pensée est auprès des proches et des personnes concernées. J'ai de la peine à trouver les mots justes dans ces moments dramatiques. Je vous garantis que la Suisse va tout entreprendre pour soutenir les blessés, leurs familles ainsi que les proches des victimes.
Merci infiniment, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Notre première pensée pour tout naturellement aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. C'est pour notre pays un jour absolument dramatique, dramatique par l'ampleur, dramatique aussi par les personnes concernées, à la fois des adultes et des enfants. Nous sommes venus d'abord pour remercier les services de police, de pompiers, des services médicaux, cet ensemble de services suisses qui ont travaillé avec un professionnalisme et une générosité admirables. Nous sommes aussi pour essayer de comprendre, car dans notre pays, c'est la consternation.
Extrait donc de la conférence de presse avec la présidente de la Confédération helvétique, avec Elio Di Rupo, le Premier ministre sur place. Nous reviendrons sur cette conférence de presse dans un instant, mais bien sûr, jour de deuil national, on vous l'a dit, divers hommages au Parlement wallon, une minute de silence, hommage au Parlement flamand, hommage également demain au Parlement et au Sénat fédéral, avec l'ouverture d'un registre de condoléances, et puis l'hommage du président du Conseil, du président permanent du Conseil européen, Herman Van Rompuy.
C'est un horrible drame humain qui frappe aujourd'hui la Belgique. Le pays tout entier a été saisi par l'émotion en apprenant la nouvelle de l'accident de ce matin. Nous nous sentons tous, père, mère, frère ou sœur, de cette dizaine de filles et de garçons et leurs accompagnateurs qui revenaient d'une semaine en Suisse. Ce qui aurait dû être de belles retrouvailles s'est transformé pour toutes ces familles en une vraie tragédie. Mes pensées les plus intenses vont aux familles des victimes, grandes et petites. Au nom de l'Union européenne et en mon nom personnel, je leur adresse toutes mes plus sincères condoléances. Le gouvernement belge a immédiatement pris les dispositions nécessaires afin d'assister les familles en ces moments dramatiques. Sachez que mes pensées les accompagnent en ces heures et jours difficiles.
Herman Van Rompuy, donc le président permanent du Conseil européen. Avec ces extraits, nous tenions également à vous faire entendre les premières pistes qui semblent se dégager, en tout cas les priorités également qui semblent se dégager sur place pour tenter de comprendre. On va donc retourner à la conférence de presse dont nous avions déjà entendu un extrait pour retrouver ici le premier procureur du Valais, Olivier Elsic. Pour lui, tout d'abord, la priorité, c'est bien sûr l'identification des victimes, et ensuite il tenait à préciser que l'enquête avait déjà commencé.
Sur la base des premières analyses des images vidéo, on peut également exclure catégoriquement qu'il y ait eu une interaction avec d'autres véhicules ou d'autres usagers de la route, donc ça on a pu parfaitement exclure cette hypothèse. On peut également exclure un problème qui serait lié à la chaussée. Donc la chaussée était sèche, il n'y avait aucun problème d'entretien, il n'y avait pas de liquide sur la chaussée. Donc là aussi, c'est une hypothèse que nous avons exclue. Sous réserve d'analyse évidemment détaillée toujours, la vitesse du véhicule est en voie de détermination, notamment avec l'analyse des tachygraphes qui ont été saisis. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'a priori, le véhicule ne circulait pas trop vite. Mais évidemment que je vous dis ça avec les réserves d'usage. D'après les constatations aussi qu'ont faites les sauveteurs qui sont intervenus dans cet autocar, les enfants étaient attachés avec des ceintures de sécurité. Évidemment, vu la violence du choc, ça n'a pas permis de sauver bon nombre d'entre eux. Aujourd'hui, à 7 heures, nous avons évidemment encore beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Donc les hypothèses, principalement au nombre de 3 pour les causes que nous pouvons envisager. La première, on doit envisager une cause technique, une défectuosité du véhicule. Évidemment, c'est possible. Donc là, l'expertise qui va être entreprise sur ce véhicule permettra de l'établir de manière tout à fait précise. Une autre hypothèse pourrait être celle d'un malaise ou quelque chose comme ça, d'un problème de santé du conducteur. Là aussi, je pense que les analyses par autopsie permettront soit d'infirmer, soit de confirmer cette hypothèse. Troisième piste qui est suivie en priorité, c'est évidemment, comme dans tous les accidents qui arrivent, une cause humaine qui pourrait être liée à une erreur, celle-ci n'étant pas privilégiée par rapport aux autres que j'ai citées précédemment.
Olivier Elsig, donc le premier procureur du Valais, qui s'exprimait lors de cette conférence de presse tenue il y a quelques dizaines de minutes sur place en Suisse. Avec nous en direct également Patrick Lagadec, spécialiste en gestion de crise et directeur de recherche à l'École Polytechnique de Paris. Patrick Lagadec, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Il y a évidemment toujours la difficulté, hein, on l'évoquait dans la chronique de Paul Hermant tout à l'heure, des mots à trouver. Le maître mot, c'est sans doute dignité.
Oui, c'est ce que je viens de voir comme étant le fil rouge, la ligne de vie de cette conférence de presse qui vient d'avoir lieu en Suisse. C'est vraiment la dignité, quoi. Donc, certes, tout le monde a le mot émotion à la bouche, mais surtout protégeons les familles. N'allons pas soutirer de l'émotion pour faire marcher tout un système. Protégeons les familles et essayons d'avoir cette attitude de respect, de compétence pour entourer les familles, comme disait le Premier ministre belge, accompagner à la fois sur le front de la douleur et sur le front de l'incertitude, parce qu'on va avoir plusieurs jours là où on ne sait pas, et peut-être plus longtemps. Et peut-être deux lignes de vie qui seraient aussi à garder à l'esprit. Il faut accompagner les familles, mais dans la durée. Et pas seulement, c'est très bien de le faire maintenant, ça c'est absolument indispensable et crucial, mais n'oublions pas qu'il faudra faire de l'accompagnement dans la durée. Et puis aussi, ce qui est très très difficile, accompagner ce dur passage entre le non-sens absolu, il n'y a plus de mots, c'est le noir, et ces réalités, ces éléments de réalité qu'on mettra au jour petit à petit, et sur lesquels il n'y aura pas de certitude immédiate, et ce passage entre le non-sens et une certaine connaissance, lui aussi est compliqué, là aussi on pourra aider les familles.
Alors je vous propose, Patrick Lagadec, vous restez avec nous, d'entendre également, déjà parce que les premières questions malgré tout se posent pour essayer de comprendre, d'entendre ici le porte-parole de Touring Secours d'Anis Mag, que j'ai pu joindre avant cette émission, puisqu'on tente également de savoir si le tunnel en lui-même pourrait, le fameux tunnel A9 près de Sierre, avoir une part de responsabilité. Manifestement, en tout cas, ce tunnel qui est récent, qui date de 1999, a été contrôlé en 2005 par les techniques qui vont nous être exposées, avait reçu une excellente notation, nous l'entendrons également. Tout cela d'ailleurs découlant de la fameuse catastrophe du tunnel du Mont-Blanc d'Anis Mag.
C'est un tunnel qui a été testé dans le cadre de nos activités internationales au sein de la Fédération internationale de l'automobile qui a commencé avec ce genre de test après l'incident dans le tunnel du Mont-Blanc il y a quelques années. Et donc suite à cela, il y a eu quelques critères et c'est sur base d'un checklist et des experts qui seront sur place, sur le terrain pour tester les tunnels que nous accordons des scores à la plupart des tunnels européens qui font plus qu'un kilomètre.
49 tunnels dans 14 pays européens, c'est bien ça?
C'est exact. Donc, entre-temps, nous avons testé plusieurs tunnels même deux fois, avant et après réaménagement éventuel. Ça concerne surtout des grands tunnels qui ont beaucoup de trafic international, des touristes, transports, etc. C'est dans ce cadre-là que nous l'avons trouvé très important de pouvoir communiquer au grand public le niveau de sécurité ou le niveau de risque des tunnels.
Oui, et en l'occurrence, ce tunnel-ci était plutôt bien coté?
Oui, le tunnel est assez récent, depuis 1999. Il a été testé en 2005 par la FIA et les experts suisses et allemands. Et donc, sur base des critères qui ont été vérifiés, sur base des tests qui ont été effectués sur place aussi, par exemple au niveau de la fumée, évacuation, ventilation, téléphone, radiocontact, etc., le tunnel a eu le score bien. Donc, c'est un score qui est juste en dessous du score supérieur qui est très bien. Et donc, cela veut dire que ce tunnel est quand même assez bien au niveau de l'infrastructure et au niveau des systèmes de sécurité, sortie de secours, couloir de fuite, etc., etc.
Et qu'est-ce que l'on peut dire également des éventuels obstacles dans ce tunnel? Pas d'obstacles particuliers qui pourraient éventuellement à un moment ou à un autre mis en cause?
Les obstacles, normalement, il n'y a pas eu de problème sur base des tests que nous avons effectués. Il y a par exemple des espaces qui sont prévus pour pouvoir évacuer le tunnel en cas d'incendie au plus rapide, et donc c'est pour cela que ce genre d'espaces ont été créés dans certains tunnels. Maintenant, c'est la même chose, bien sûr, sur les routes. Donc, si quelqu'un a un accident, une collision contre un obstacle vertical, les suites sont graves aussi. Les obstacles, souvent, sont là pour des raisons aussi sur lesquelles je ne vais pas m'exprimer maintenant.
Lorsque vous faites ces constats, s'il y a des recommandations de modifications à apporter, est-ce que vous avez les moyens, au-delà du contrôle, les moyens d'imposer ces modifications ?
C'est un programme qui a l'appui de la Commission européenne, et donc c'est sur base de nos tests que nous avons effectués que la Commission européenne a rédigé la directive européenne en 2004 pour les tunnels. Ces directives ont été acceptées, adaptées par les États membres qui, de fur et à mesure, investissent dans l'adaptation, le réaménagement des tunnels. Ça prend du temps, bien sûr, vu le fait des budgets assez limités, etc. Donc, mais entre-temps, la plupart des pays, des États membres ont commencé à adapter les tunnels. En ce qui concerne le tunnel où a eu l'accident grave, il n'y a pas eu tellement de remarques qui ont été formulées en 2005. Surtout, pas des remarques qui peuvent faire le lien entre l'accident et l'aménagement du tunnel ou la gestion du tunnel.
Est-ce que ces résultats de tests sont communiqués notamment aux associations, aux caristes, au grand public? Et si oui, de quelle manière? Éventuellement pour pouvoir tracer son trajet en quelque sorte en fonction de cela.
Oui, exact. Donc, depuis de nombreuses années, ce genre de résultats sont communiqués au grand public via les différentes organisations nationales de mobilité dont nous faisons partie. Il y a même un site aussi que les gens peuvent consulter. Les tunnels sont repris dans les magazines aussi des grandes organisations. Et donc, c'est ainsi qu'on peut un peu vérifier son trajet, son itinéraire, non seulement au niveau des tunnels, mais aussi au niveau de la sécurité ou des risques des routes aussi en général. Tout est accessible. Les résultats passe en grand dans la presse chaque année en toute l'Europe, puisque la communication se fait en même temps dans tous les pays membres. Normalement, les gens sont bien au courant de ce qui se passe et des résultats, en fait. Oui.
Dany Smack, donc le porte-parole de Touring. Patrick Lagadec, on voit bien qu'il faut essayer de comprendre. On comprend ici aussi, par ce que l'on vient d'entendre, que l'on tire malgré tout les leçons des catastrophes, ici notamment de celle du Mont-Blanc et d'autres. Des systèmes sont quand même mis en place.
Oui, on essaye à chaque fois de retirer le maximum d'enseignement. Ensuite, c'est un petit peu, ça rejoint ce que je disais, il faut que ce soit fait dans la durée également, parce que garder un système en sécurité demande beaucoup d'efforts dans l'obstination, la rigueur, et qu'on ne relâche jamais la vigilance et l'exigence. Cela dit, il y a des impondérables, il peut très bien avoir des grosses catastrophes à partir de quelque chose qu'on ne comprend pas, alors qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments de vulnérabilité clairs. Donc les risques, c'est aussi une faille dans la compréhension, et donc ça impose à tous à la fois cette rigueur, cette responsabilité, mais la modestie partagée qui nous ramène à la réserve qu'on doit avoir, qui ne veut pas dire qu'on ferme les yeux, au contraire. Cette réserve ne peut aller qu'avec la rigueur absolue, et qui commence déjà, d'ailleurs, puisque les enquêtes sont déjà en cours. Et donc, à tout moment, il faut être capable de faire un point sur
ce qui est connu et qu'il faut garder, ce qui n'est pas connu et qu'il faut conquérir. Et c'est notre conquête vis-à-vis du risque en permanence.
Alors déjà ce matin, cela dit, des voix un peu discordantes se sont fait entendre. Loretta Kellings nous disait en tête de cette édition que immédiatement, dès que les cellules de crise ont été prévenues ici, notamment aux affaires étrangères et puis aux affaires sociales et à la santé, des équipes se sont rendues vers les communes concernées. Le bourgmestre de Louvain, concerné par la proximité de sa ville par cette catastrophe, la proximité de sa ville avec l'une des deux écoles, s'est dit lui plutôt choqué de ne pas avoir été prévenu à temps. Nous écoutons Louis Tobac, bourgmestre de Louvain et ancien ministre de l'Intérieur.
J'ai été averti ce matin à 6h15 par le chef de corps de la police, qui lui avait été averti à 5h30. Et pourquoi est-ce que je cite tout cela ? Parce qu'on a quand même quelques remarques à formuler après. On a quand même l'impression que la communication n'a pas très bien passé. Et surtout avec les affaires étrangères à Bruxelles. Nous avons essayé de toucher le chef de cabinet de M. Reinders, mais c'était impossible. Donc pour demander un numéro en Suisse qu'on pouvait toucher, parce qu'on avait les photos des enfants pour qu'on puisse les identifier, etc. Mais le chef de cabinet n'a pas pu être atteint, avait même dit qu'il ne communiquait qu'avec, donc pas avec la police, mais il ne communiquait qu'avec la direction de l'école. Donc c'est assez curieux, alors qu'il avait quand même copieusement informé son ministre au Vietnam.
Alors, très brièvement, Patrick Lagadec, une réaction. La polémique, le jour du deuil est toujours difficile.
Oui, on comprend bien qu'un bourgmestre qui est en contact direct avec sa population soit particulièrement touché s'il a le sentiment d'avoir été un peu absent dans la boucle. Bon, je dirais qu'il garde ceci pour le retour d'expérience qui était exigé clairement pour savoir comment on a fait cette information. Est-ce qu'on était complètement débordé et on a fait ce qu'on a pu et on a fait l'essentiel? Mais non, il y a d'autres essentiels. Aujourd'hui, la carte des acteurs à avertir est absolument à profusion. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de leçon là aussi? Donc, c'est toujours la tension qu'il y a entre l'exigence de bon retour d'expérience qu'on aura à faire. Et puis aujourd'hui peut-être surtout éviter toute polémique parce que le terrain est à la dignité, mais gardons qu'il y aura du travail à faire parce qu'aucun système d'information n'est parfait et souvent il y a beaucoup de marge de liberté qu'on peut gagner, beaucoup de marge de progrès. Et donc, j'entends ce qui est dit, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de douleur. Hein. Donc, entendons tout ça et mettons le maximum de compétences pour qu'on soit à chaque fois à la hauteur de ces chocs majeurs qui nous arrivent.
Je vous propose d'entendre, pour terminer également, Marc Lersch, ancien urgentiste ici en Belgique. Il est actuellement conseiller sécurité de la gouverneure du Brabant-Wallon, Marie-Josée Laloye. Je l'ai joint tout à l'heure avant l'émission en lui demandant si ça se passait chez nous, comment devrait-on développer immédiatement les choses sur le terrain?
Alors en fait, la structure d'organisation d'un centre de crise est la même partout dans le pays, que ce soit le centre de crise fédéral, provincial ou les centres de crise communaux pour les communes qui en ont déjà un. D'une part, on a un volet important de prévention. Donc ici, nous avons par exemple une cellule provinciale de sécurité qui fait de la prévention tout au long de l'année. Les missions sont nombreuses. Il faut établir, actualiser les plans d'urgence et d'intervention, informer les destinataires, mettre à jour les listes d'alerte par exemple. Il faut organiser des exercices, il faut évaluer les exercices et les situations d'urgence. Il faut établir l'inventaire et l'analyse des risques et organiser l'information préalable sur la planification d'urgence. Ce qui veut dire que c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre pour pouvoir être efficace très vite le jour où les crises surviennent. Alors quand les crises surviennent, la plupart du temps, on travaille toujours avec différentes disciplines autour de la table et ces disciplines font l'objet d'un schéma qui est le même, identique dans tout le pays, que ce soit au niveau national, provincial ou communal. Donc en gros, la discipline 1, ce sont les opérations de secours proprement dites. Généralement, elles sont assurées par les services incendie et les unités opérationnelles de la protection civile et donc ça consiste à maîtriser la situation d'urgence éliminer les risques liés à celle-ci. Et puis on recherche, on libère, on secourt, on sauve les personnes, on les met en sécurité, on protège leurs biens. Donc généralement, ça, c'est fait par les pompiers ou par la protection civile. Ensuite, la discipline 2, c'est tout ce qui est d'habitude fait par les services d'aide médicale urgente. Donc on crée la chaîne médicale de secours, on apporte des soins médicaux. Donc sur place, on rassemble les victimes dans un espèce d'hôpital de campagne qu'on appelle un poste médical avancé. On les stabilise, on leur trouve le bon hôpital pour ce qu'elles ont et on les évacue vers les bons hôpitaux une fois qu'elles sont stabilisées. Il y a ici l'aide psychologique aux victimes, aux sauveteurs et aux proches. La discipline 3, c'est toutes les missions de police du lieu de la situation d'urgence principalement, mais parfois d'autres polices dans d'autres régions, s'il y a des familles à prévenir dans d'autres provinces par exemple. Et là, c'est maintenir et rétablir l'ordre public sur les lieux d'accident, dégager les voies d'accès, le cas échéant escorter les services de secours quand ils arrivent et quand ils repartent. Il y a aussi installer, délimiter, surveiller les périmètres ainsi que contrôler l'accès aux zones. On fait plusieurs périmètres, n'entre pas qui veut sur une scène d'accident. Et puis, on exécute également l'évacuation de la population si jamais ce sont des risques chimiques ou nucléaires, où on veille à leur confinement. Et puis, il y a toute une série d'autres missions judiciaires, naturellement, pour les besoins de l'enquête. Ça, c'est globalement les tâches de la discipline 3. Alors, je vais très vite. L'appui logistique, c'est discipline 4, sont les gros moyens logistiques spéciaux qui sont assurés aussi bien par les services incendie, la protection civile, la défense, parce que la défense est impliquée dans les plans de secours, les moyens de l'armée aussi, et certains services publics et privés spécialisés, notamment les services communaux de travaux, par exemple. Et enfin, la discipline 5, qui n'est pas la moins importante, c'est toute la gestion de l'information, tant l'information aux médias que l'information à la population.
Prendre en charge le deuil des familles, c'est évidemment une chose très difficile.
Oui, et c'est la raison pour laquelle tous les plans d'urgence intègrent cette dimension. Et donc les proches et les familles victimes, mais également les sauveurs aussi, font l'objet d'un accompagnement psychologique tout au long de la gestion de la crise.
Alors Marc Lerche, cela dit, il y a aussi aujourd'hui sans doute à intégrer, à réfléchir à l'émergence des réseaux sociaux ou des nouvelles technologies qui permettent d'aller parfois plus vite que la communication que vous veniez d'aborder.
Eh bien oui, le monde change et les techniques évoluent. Il y a 10 ans, en matière de gestion de crise, on pouvait se contenter de concevoir un communiqué de presse dans le calme feutré d'un centre de crise et le diffuser aux médias officiels. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pendant que vous faites ça, il y a déjà toute une série d'autres messages qui transitent sur les réseaux sociaux, messages qui sont parfois justes, mais parfois complètement erronés. Donc nous sommes en train, dans la province du Brabant-Wallon, de réfléchir avec le gouverneur de province à ces techniques de pointe qui permettent au pouvoir public d'être présent sur les réseaux sociaux en temps de paix, de manière à pouvoir également les utiliser en temps de crise. On s'est en effet rendu compte que la préexistence d'un lien de confiance entre l'institution publique et les citoyens est un des éléments indispensables pour que le réseau social puisse fonctionner avec crédibilité en cas de crise. Donc ici au Brabant-Wallon, on travaille beaucoup sur ces matières-là. Et on est en train d'affiner les techniques pour pouvoir avoir une communication efficace également sur les réseaux sociaux.
Marc Lerche, donc conseiller sécurité de la gouverneure du Brabant-Wallon. Ultime question, Patrick Lagadec, on vient bien avec ce dernier point d'ailleurs de voir combien les plans d'urgence de crise doivent en permanence être remis sur le métier en fonction des évolutions aussi technologiques.
Oui, c'est de plus en plus un front complexe avec, comme disait Marc Lerche, tout d'un coup, c'est cette complication du monde moderne, cette instantanéité qui vient partout. Et je voudrais dire que quand on regarde ces images et quand on écoute ce que vous avez dit de la conférence de presse en Suisse, ce qui se dégage et qui, quelque part, contrebalance le sang et le choc, c'est ces hommes et ces femmes qui sont unis dans la dignité et la compétence pour apporter tout de suite une capacité pour tracer quand même une route dans le malheur. Mmh. Et donc aujourd'hui, moi je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut accompagner, comme disait Elio Di Rupo, les familles dans la douleur et l'incertitude, ne pas oublier la durée, ça va être capital, les protéger pour qu'il n'y ait pas toutes les télévisions mondiales qui vont venir chercher dans toutes les familles, même très très loin des parents de l'émotion. Il y a tout ça qui se met en place, et est-ce qu'on peut être extrêmement vigilant pour épargner le maximum cette confrontation au difficile aux parents de ces jeunes?
Merci, nous en resterons là pour cette émission du mois, Olivier.
Merci Eddy, et nous y reviendrons bien sûr largement dès le journal de 19h, c'est dans quelques petits instants, tout de suite.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.